Bien, je vous souhaite une bonne retraite. Et pour cette deuxième instruction, nous allons parler, nous allons méditer sur notre pire ennemi, le péché, le mal. Le mal par excellence, qu'est le péché. Alors, comme pour toute instruction, il faut toujours prendre ces instructions que vous recevez comme une invitation à la prière. Parce qu'il ne s'agit pas dans une retraite d'abord de beaucoup apprendre, de beaucoup savoir, mais d'abord de beaucoup aimer. Et puis pour beaucoup aimer, il faut beaucoup prier. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ces instructions, sans doute faut-il les entendre dans un esprit de prière. Bien sûr, noter, c'est bien. Noter, c'est bien. Mais il ne faut pas que noter soit un obstacle à l'intériorisation des choses qui vous sont dites. Il s'agit d'abord de cette écoute de la parole de Dieu dans nos âmes, de cette réponse aux invitations du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle également il faut donc beaucoup prier dans une retraite, enfin cela vous a déjà été dit sans aucun doute, mais il faut beaucoup prier. L'habitude que l'on a dans les retraites de Saint-Ignace, c'est de faire une méditation après chaque instruction. C'est une bonne habitude, et vous pouvez bien la garder si vous le voulez. C'est un très bon commencement de prier, par exemple, une bonne demi-heure après chaque instruction. Bien sûr, ça dépend ensuite des unes et des autres. Il y en a qui ont plus de facilité, donc qui peuvent prier cela et plus encore. Et puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés, pour lesquelles l'oraison comme type de prière est quelque chose de plus difficile. Alors c'est normal, il faut faire attention. Mais ce qui doit rester avant tout, c'est ce souci du recueillement intérieur de la prière. Alors donc, nous allons méditer, prier pour ainsi dire sur le péché. En trois temps, si vous le voulez bien. Une première méditation sur Adam. Une deuxième méditation sur la grande chute de Saül, le roi Saül, et la troisième méditation sur la préparation de la grande chute de Saül. Nous commençons donc par Adam. Adam, homme, saint, pécheur, racheté, notre ancêtre. Adam est d'abord un homme. Un homme, c'est un corps, c'est une âme. Vous savez que le bon Dieu a donné à Adam, avec l'âme, les deux grandes facultés de l'âme qui sont l'intelligence et la volonté. Donc nous avons, puisque Adam est notre ancêtre, aussi, nous aussi, l'intelligence et la volonté. Adam a aussi un corps, et nous avons un corps, une mémoire. La mémoire est une faculté du corps. L'imagination, une faculté du corps. L'imagination dépend du corps. Nous avons des sens. Nous avons des désirs sensibles, des passions. Adam a tout cela, nous avons tout cela, car il est notre ancêtre. Choses qui sont bonnes à savoir dans une retraite, car vous venez en retraite avec votre corps et votre âme. Et Adam avait en lui un ordre. L'âme était soumise au corps et les facultés de l'âme soumises. Le corps était soumis à l'âme et les facultés du corps soumises à l'âme. En plus de cela, Adam était saint. Et comme il était notre ancêtre, il devait nous communiquer sa sainteté. Nous aurions dû naître saints. Nous aurions dû naître saints. Cette sainteté, c'est ce qu'on appelle l'élévation à l'ordre surnaturel. D'après saint Thomas d'Aquin, mais il est difficile de bien en être absolument sûr, mais d'après saint Thomas d'Aquin, la finalité de l'homme, ce pourquoi l'homme est, existe, était dans l'ordre naturel, le ciel. Mais l'homme n'avait pas les forces d'y arriver. C'est assez compliqué, assez fin de voir la différence. Et je m'explique un peu mieux. Ce que saint Thomas dit, c'est que l'homme, en voyant la terre et tout ce qui l'entoure, se dit bien que tout cela est fait par un être suprême, un pur esprit, Dieu. Et comme il est dans la nature de l'homme, quand il voit de quelque chose, de se demander d'où vient cette chose, eh bien, en voyant la création, le bon Dieu, l'homme, pardon, naturellement est poussé à se dire qui est celui qui a fait cela. Et donc il a naturellement un certain désir de savoir, de connaître l'être qui a fait cela. Saint Thomas d'Aquin ne dit pas que le ciel est dans la nature de l'homme, mais qu'il est naturel à l'homme de désirer connaître l'auteur de la création. Mais que cela est impossible à ses forces, car par nos propres forces, nous ne pouvons pas connaître Dieu intimement. Nous pouvons savoir qu'il nous a créés, nous pouvons savoir qu'il est l'auteur de la création, mais nous ne pouvons pas connaître son essence intime, sa nature intime, qui est la Sainte Trinité. Alors le bon Dieu va élever l'homme pour le faire parvenir à sa fin. Et cette élévation est une élévation surnaturelle. Puisque tu n'arrives pas à moi, je t'élève à moi, je t'élève à moi gratuitement. C'est tout ce qu'on appelle dans le catéchisme l'élévation à l'ordre surnaturel par Dieu pour l'homme. Et donc le bon Dieu va donner à l'homme sa fin, le ciel, la vision de Dieu face à face, d'une façon gratuite. Et il va lui donner cette fin qui est surnaturelle, qui est dépassée largement tout ce qu'on aurait pu concevoir et surtout pouvoir. Et le bon Dieu va nous donner sur la terre les moyens d'y arriver. Qu'est-ce que c'est ces moyens? Eh bien, c'est d'abord la grâce. La grâce qui est une participation à la vie divine. Et donc Dieu, donnant à Adam pour finalité le ciel, va lui donner déjà, en le créant, la grâce. La grâce sanctifiante, les vertus surnaturelles, la foi, l'espérance, la charité. Voilà comment nous aurions dû naître. Nous sommes passés à côté d'une chose magnifique, si nous avions pu naître comme Adam, avec la grâce, les vertus. Tout aurait été beaucoup plus facile. Adam avait également reçu les quatre dons préternaturels, sans rentrer dans les détails, et l'un de ces dons, c'était l'immortalité, il ne devait pas mourir. Et l'autre sur lequel il faut insister, c'est l'intégrité, c'est-à-dire que tout ce qui était inférieur dans la nature d'Adam obéissait au supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le corps obéissait parfaitement à l'âme. Les sens obéissaient parfaitement à l'âme. Les passions obéissaient parfaitement à l'âme. L'âme obéissait parfaitement à Dieu. La volonté obéissait parfaitement à l'intelligence. C'était l'ordre absolu. Adam avait cela. Mais il l'a perdu. Mais au départ, il l'avait. Et nous l'aurions eu. Nous l'aurions eu aussi. Mais Adam n'est pas seulement homme et saint. Il est pécheur. C'est la chute, le péché originel. Le péché. Dieu a fait Adam libre pour qu'Adam puisse l'aimer. Mais le volet de cette liberté, c'était la capacité de pécher. Et le bon Dieu a donné un précepte à Adam, vous savez toute cette histoire, l'histoire de l'arbre, de la science du bien et du mal. Et le bon Dieu a donné à Adam un précepte. Tu mangeras de tous les arbres, sauf de celui-là. Si Adam avait obéi au bon Dieu, eh bien, les choses auraient été fort simples. Nous tous, nous serions nés d'Adam, homme et saint, donc avec sa nature humaine, la grâce. Nous, à la fin de notre vie, nous ne serions pas morts et nous aurions été élevés au ciel de façon pacifique, tranquille. Mais Adam a été tenté par Ève, qui a été tentée par le serpent. C'est intéressant de relire toujours ce texte de la Genèse dans lequel Satan commence par mentir. Pourquoi est-ce que Dieu vous a interdit de manger des arbres du jardin? C'était faux. C'était d'un seul arbre. Alors Ève lui dit, il nous a interdit de manger seulement de l'arbre de la science du bien et du mal. Alors Satan va lui mentir encore. Mais si Dieu vous a interdit de manger de l'arbre du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, c'est parce qu'il sait que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. Quel menteur! La perversion de la parole, parce que, au contraire, si Adam et Ève mangent de ce fruit, alors non seulement ils ne deviendront pas comme des dieux, mais ils deviendront pires que ce qu'ils sont en ce moment. Et Adam et Ève vont pécher par orgueil, non pas par gourmandise, mais par orgueil. Devenir des dieux. C'est un peu ça qu'il y a derrière chacun de nos péchés. Nous sommes les descendants d'Adam. Il est notre grand-père. Orgueilleux, désobéissant. Alors Adam va désobéir comme chef de la nature humaine et il va entraîner toute l'humanité dans la désobéissance et dans la chute. C'est terminé. Le cadeau est brisé. C'est comme ces enfants, vous savez, qui reçoivent à Noël des cadeaux. En général, la moitié des cadeaux que les enfants reçoivent à Noël sont cassés le jour même ou abîmés. Les parents se désolent. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour même, Adam prend le cadeau, il casse tout. Plus de grâce, plus de dons, plus de vertu, plus de ciel, plus d'enfance divine. Rien de tout cela n'est gardé. Au lieu du ciel, Adam est promis à l'enfer et toute l'humanité avec lui. Au lieu de la vertu, voici le vice. Au lieu de l'immortalité, nous sommes promis à la mort. Nous le savons bien, un jour nous vieillirons. Les rides sont au programme, et la mort aussi. Au lieu de l'intégrité, cette rectitude parfaite, cette soumission des facultés dans Adam, eh bien nous avons au programme la révolte en nous. Notre intelligence voit ce qu'il faut faire, notre volonté dit non. Notre intelligence voit ce qu'il faut faire, nos passions nous poussent au mal. Nos passions nous poussent, par exemple, à des plaisirs déraisonnables, immoraux. Nous avons presque tout perdu, sauf la nature qui reste, elle, là, intègre mais blessée. Et nous sommes déséquilibrés. Tout homme est déséquilibré. Adam est notre grand-père. Et nous sommes esclaves de Satan. Adam nous a entraînés dans sa révolte. Le péché originel est une véritable catastrophe. Il y a quelques mois, on se lamentait sur cette fameuse tempête qu'il y a eu lieu en France, ou bien on se lamente sur les inondations qui ont lieu ici-là, sur tel ou tel tremblement de terre. Mais un seul fait comme le péché originel est pire que 1000 tempêtes comme celle de décembre. bien pire. Alors nous lisons ça dans la Genèse, dans la Bible. Ça prend une page. C'est vite lu. C'est un livre. Mais ce petit fait-là, cette désobéissance, est pire que toutes les guerres mondiales réunies. Car toutes les guerres mondiales réunies viennent de là. Toutes les tempêtes viennent de là. C'est une catastrophe que ce péché originel. Parce que désormais, toute l'humanité va être entraînée dans cette révolte, dans cette déchéance. Nous naissons blessés. Comme un petit enfant qui naît, vous savez, il y a des enfants qui naissent avec des infirmités. Bien, ils sont la figure de l'humanité qui naît avec une infirmité spirituelle. Tous, nous naissons avec cela. Alors ça doit, quelque part, nous humilier en cette retraite qui doit être une retraite de conversion, comme il était dit ce midi, là, dans la cassette. Toute retraite est une retraite de conversion. C'est vrai que ces retraites sont des retraites d'approfondissement. Mais tout approfondissement est une conversion. Parce que dès qu'on approfondit, on retrouve le péché. Plus nous creusons dans notre âme, plus nous trouvons le péché. Et celle qui se dit « j'ai déblayé pas mal, il ne me reste plus grand-chose », cette âme est celle à laquelle peut-être il reste le plus à découvrir. Car depuis Adam, nous sommes tous marqués de cette faiblesse originelle et le péché est inscrit au fond de notre nature. Tous. Et cette retraite, ces prières que vous faites à la chapelle doivent vous permettre de découvrir dans votre âme ces blessures dont le péché originel est la cause. Vous devez vite trouver en vous, dans vos âmes, ce foyer de péché dont parle saint Paul. Ce foyer, notre âme est un foyer de péché. Et toutes nos âmes, à vous, à moi, tous nous avons en nous un foyer de péché. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous les fils d'un même grand-père. Nous sommes des foyers de péché. Alors nous devons, dans cette retraite, essayer de découvrir, vous savez, comme les chirurgiens qui travaillent la plaie, qui rentrent dedans, pour découvrir un petit peu toutes ces immondices qui sont dans nos âmes, qui viennent du péché originel en particulier, et pleurer ces péchés. Pleurer cette nature faible que nous avons eue, que nous avons. Ne pas nous considérer, par exemple, comme meilleurs. Moi, aucun d'entre nous n'est la Sainte Vierge, elle qui a été Immaculée Conception. Tous nous sommes blessés par le péché originel et donc aucun n'est meilleur sous ce rapport. Tous nous sommes nés fils de esclaves de Satan. Mais pas non plus comme pire. Ah, moi je suis pire que les autres. Non. Non. Vous êtes pire que les autres. Vous semblez à vous-même pire que les autres. Pourquoi ? Parce que vous ne voyez que l'intérieur de votre propre conscience et non pas l'intérieur de la conscience des autres. Et donc vous voyez vos misères et non pas celles des autres. Mais les pasteurs sont bien placés pour dire, pour savoir que tout le monde est atteint du péché originel parce que tout le monde est pécheur. Vous savez qu'il suffit... On a du mal à concevoir comment certains prêtres ont pu nier le péché originel. Ils n'ont jamais fait d'apostolat. Qu'est-ce que le spectacle de l'humanité, sinon le spectacle d'une misère. Alors, Adam, pécheur, est notre grand-père, mais Adam a été racheté. Et nous voyons cela dès la Genèse. Le bon Dieu qui annonce un rédempteur à Ève. Qui annonce à Satan qu'il sera vaincu d'avance. Je mettrai entre ta descendance et la descendance de la femme une inimitié. Elle t'écrasera la tête. Tu as perdu la bataille. Tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Adam est racheté. Il lui est promis un sauveur, et Adam, par la foi dans ce sauveur, par la foi dans notre Seigneur, va pouvoir être sauvé. Donc Adam, qui était homme, est notre ancêtre en tant qu'homme. Adam, qui était pécheur, est notre ancêtre en tant que pécheur. Adam va être racheté, mais ne sera pas notre ancêtre en tant que racheté. Attention. Si Adam va avoir foi dans le Messie et pouvoir à nouveau entrevoir les portes du paradis, la possibilité de se sauver, c'est en tant que personne privée. Et nous ne bénéficions pas, comme fils d'Adam, de sa conversion. Qu'est-ce qui nous permettra à nous de nous convertir ? Ce n'est pas la filiation d'Adam, Adam l'homme de désobéissance, mais la filiation de Jésus-Christ, l'homme d'obéissance. Et par le baptême, nous sommes hantés, greffés sur notre Seigneur. Adam donc va lui aussi profiter de cette rédemption en Jésus-Christ. Quelle est cette rédemption ? Eh bien, vous le savez, la faute d'Adam, la faute originelle, la faute de toute l'humanité, mérite une expiation. La perte des âmes mérite un rachat. Il fallait expier, il fallait racheter. Qui le pouvait ? Qui pouvait sauver l'humanité ? Il fallait que ce soit un homme, car il fallait être un homme pour souffrir. Et il fallait que ce soit un représentant de l'espèce humaine qui expie, étant donné que c'était un représentant de l'espèce humaine qui avait péché. Il fallait donc que le Rédempteur fût un homme. Il fallait également que le Rédempteur fût Dieu, car seul un Dieu pouvait, par ses actions, mériter aux hommes la vie éternelle. Dieu s'est donc fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va faire alliance, l'alliance brisée par le péché. Il va la refaire. Œuvre de pardon et d'amour, de miséricorde. Le péché est effacé. Dieu va s'incarner, souffrir sur la croix, fonder l'Église et donner à l'humanité la possibilité de se racheter de son péché, du péché originel, par l'Église, la foi, les sacrements. À nouveau, il nous est possible de retrouver la grâce sanctifiante perdue par Adam, les vertus. Et par le baptême, nous les retrouvons. Par conséquent, par le baptême, nous retrouvons la justice qu'avait Adam, la grâce habituelle. Ouf. Il est possible, par le baptême, de retrouver la justice originelle. Mais attention, nous ne retrouvons pas tout. Nous ne retrouvons pas l'immortalité et nous ne retrouvons pas l'intégrité. Nous sommes promis à la mort et promis à la concupiscence. Les trois concupiscences dont il sera parlé dans l'instruction sur le combat spirituel. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil de la vie. La concupiscence des yeux, c'est-à-dire l'envie, la cupidité. La concupiscence de la chair, la gourmandise et la luxure. Et l'orgueil de la vie, l'ambition, l'amour propre. Eh bien, tout ça, nous l'avons en nous, à cause du manque d'intégrité. L'intégrité qui faisait que tout en nous était ordonné, nous l'avons perdue et désormais tout en nous est révolte. Les passions se révoltent contre l'âme. D'où ces trois concupiscences. Et nous le savons bien, qui n'a expérimenté dans sa chair, dans son âme, cette lutte, cette envie des biens de la terre, envie désordonnée par rapport à la raison et à la foi. Heureusement donc, Adam a été racheté et nous pouvons être rachetés du péché. Donc Adam, homme, saint, pécheur, et notre ancêtre en tout cela, mais Adam racheté et notre frère en cela. Nous aussi, nous avons la possibilité d'éviter le péché, de nous en racheter. Nous sommes fils d'Adam en naissant, mais membres du corps mystique par le baptême, membres de l'Église. Nous en venons à notre deuxième méditation, la chute de Saül. Saül. Le peuple juif avait demandé à Dieu un roi. Et le bon Dieu a exaucé son désir. Et Dieu a choisi comme premier roi d'Israël un personnage appelé Saül. Saül, qui est décrit dans le livre, le premier livre des rois, au chapitre 9. Il y avait un homme de la tribu de Benjamin qui s'appelait Cis. Il était fils d'Abiel, etc. C'était un homme puissant et fort. Il avait un fils appelé Saül. De tous les enfants d'Israël, il n'y en avait pas de plus grand que lui. Donc Saül, un homme d'Israël, paysan. Et voici que le bon Dieu va choisir Saül pour roi d'Israël. Le bon Dieu va choisir toujours ce qui est le plus petit, comme avec Sainte Bernadette. Il va donc choisir Saül comme roi d'Israël. Et ceci est l'image de notre élévation à l'ordre surnaturel. Nous sommes un peu des Saül. Le bon Dieu nous a choisis, nous qui étions pauvres hommes. Il nous a choisis pour être un jour appelé au ciel. Élection gratuite. Et lorsque Saül va être manifesté par Samuel, le prophète, comme devant être le roi d'Israël, tout le monde va être étonné. Comment ? Un homme comme lui, un pauvre paysan, devenir roi ? Comment est-ce possible ? Le Seigneur avait révélé à Samuel la venue de Saül en lui disant « Demain à cette même heure, je vous enverrai un homme de la tribu de Benjamin et vous loindrez comme chef de mon peuple Israël. » Tandis que Samuel regardait Saül, le Seigneur lui dit « Voici l'homme dont je vous ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Élection gratuite de Dieu sur Saül. Et de la même façon pour nous, élection gratuite du bon Dieu sur nous. Le bon Dieu a décidé de nous appeler au ciel, à cette royauté qu'est le ciel. Nous avons donc été appelés au ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Évidemment, cette méditation doit être une méditation sur le péché, mais il faut quand même aborder certaines réalités pour que vous rentriez bien dans l'esprit de la retraite. Nous avons été faits pour le ciel. Nous avons été faits pour quelque chose. Voyez, ce n'est pas à nous de décider ce pourquoi nous avons été faits, comme le dit Sartre, qui dit que c'était l'homme qui, par sa liberté, qui se projette en avant et qui décide à lui-même ce pourquoi il a été fait. C'est faux. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. De même façon qu'une montre n'a pas choisi d'exister elle-même, et donc elle ne peut pas s'être fixée à elle-même le but de son existence. Pas cette montre qui décide, tiens, je vais servir à ceci ou à cela. Et de la même façon pour nous. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Et donc, ce n'est pas à nous à nous fixer le but de notre existence. Qui va nous fixer le but de notre existence ? Dieu. Qui avait choisi Saül pour roi ? Dieu. Alors, quel est le but de notre existence ? Pourquoi sommes-nous sur la terre ? L'homme a été créé pour louer, servir, aimer Dieu et par ce moyen sauver son âme. Voilà. Le bon Dieu m'a fixé cela. Je n'ai pas le choix. Une montre est faite pour donner l'heure. homme est fait pour Dieu. Si la montre donne une heure exacte, c'est une bonne montre. Si je me sers de ma montre pour enfoncer des clous dans le mur, comme un marteau, on me dira, mais c'est insensé. Cette montre n'a pas été faite pour cela, vous l'abîmez en faisant ainsi. Et c'est tout à fait exact. Si j'utilise une montre pour connaître l'heure, c'est censé. Si j'utilise ma montre pour taper sur un clou pour le faire rentrer dans le mur, c'est insensé. Il en est de même pour l'homme. Le bon Dieu a fixé à l'homme le ciel pour but. Si l'homme va au ciel, l'existence de cet homme est censée. Si l'homme rate son ciel, son existence est insensée. Insensée, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Tous ces gens qui vivent autour de nous, loin de Dieu, qui prennent leur route vers la damnation, c'est terrible, c'est terrible. Leur existence aura été insensée. Et nous, si je me damne, mon existence n'aura été qu'un immense gaspillage. Sinon, mon existence est insensée. Et il en était de même pour Saül. Saül avait été choisi roi par Dieu. Eh bien, Saül devait être roi. Il devait obéir à Dieu, tout simplement. Nous verrons qu'il ne le fera pas. Donc, reprenons Saül. Au 12e chapitre, nous voyons donc Saül qui a été fait roi et qui doit obéir à Israël. Ah, pardon, à Dieu. Et que va-t-il faire? Samuel va lui dire, attention, si tu crains le Seigneur, si tu le sers, si tu écoutes la voix de son prophète, tu seras à la suite de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur et que tu es rebelle à sa parole, le châtiment du Seigneur sera sur toi. Saül est prévenu, il est roi, il doit obéir, il doit faire ce que le bon Dieu lui dit. S'il le fait, le bon Dieu le rendra heureux, s'il ne le fait pas, le bon Dieu le punira. Il en est de même pour nous. Et que va faire Saül? Saül va pécher. C'est raconté au 15e chapitre du livre des Rois, versets 1 à 9. Samuel vient voir Saül. Bien, tu as été fait roi par Dieu. Écoute maintenant. Voici ce que dit le Seigneur des armées. Je me suis souvenu de tout ce que le roi Amalek, c'était un roi païen, a fait à Israël. C'est pourquoi allez et frappez Amalek, détruisez tout ce qui est à lui. N'épargnez pas, ne désirez rien de ce qui lui appartient. Mais tuez tout. Depuis l'homme jusqu'à la femme, jusqu'aux petits-enfants, aux nourrissons, aux bœufs, aux brebis, aux chameaux et aux ânes. Alors, que va faire Saül? Saül va faire la guerre aux Amalécites, puisque le bon Dieu lui a ordonné. Saül tailla en pièces les Amalécites. Il fit passer tout le peuple au fil de l'épée. Ça ne rigolait pas dans l'Ancien Testament. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et ce qu'il y avait de meilleur dans les troupeaux, de brebis et de bœufs, dans les béliers, dans les vêtements. Donc le bon Dieu lui dit, fais ceci. Saül a très bien entendu. Saül fait la moitié ce que le bon Dieu lui dit. Il détruit tout ce qui est vil et méprisable, mais il garde pour lui les brebis, les bœufs, les béliers, les vêtements. Lorsqu'on lit la Genèse, on est attristé de cela. Saül, choisi roi par Dieu, désobéit à Dieu. C'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est le péché. Le péché de l'homme, c'est exactement ça. Le bon Dieu nous donne la grâce. Le bon Dieu nous promet le ciel. Il nous fait roi, en quelque sorte. Et nous, eh bien, nous gaspillons. Le bon Dieu nous dit, tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Et nous, en pleine lumière, nous refusons. Et alors que l'obéissance à la loi du bon Dieu était ce qui nous promettait le ciel, la désobéissance va être l'obstacle à notre vie éternelle. Oui, le seul obstacle à notre vie éternelle, c'est le péché. On se plaint beaucoup de la maladie, de la souffrance, mais ce ne sont jamais des obstacles pour le ciel. Parfois, ça peut devenir des leviers que d'âmes se sont sauvées dans la maladie. La seule véritable menace pour notre salut, c'est le péché. Parce que le ciel est le prix de l'amour, de la charité, que l'obstacle à la charité, c'est le péché, parce qu'il consiste à refuser la volonté de Dieu. Ce que saint Thomas définit d'ailleurs ainsi, saint Thomas d'Aquin, le péché est une chose dite, ou une chose faite, ou une chose désirée, à l'encontre de la loi éternelle. Le péché, donc, l'obstacle au ciel. Mais attention, pas n'importe quel péché. Vous savez qu'il y a deux grandes sortes de péchés, le péché originel et le péché personnel. Donc le péché originel, celui d'Adam, et le péché personnel, le nôtre. Et le péché personnel lui-même a deux espèces, péché mortel, péché véniel. Donc ce sont des rappels. Le péché mortel est une transgression de la loi de Dieu, mais d'une loi importante, une matière grave, avec pleine advertance et plein consentement. Donc pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait loi importante avec pleine advertence. Ça veut dire pleine advertence, ça veut dire il faut savoir que ceci est un péché et aussi que c'est un péché grave. Et plein consentement. Ça veut dire qu'il faut le vouloir vraiment. Le demi-sommeil, par exemple, ne fait jamais de péché mortel. Donc voilà les trois conditions du péché mortel. Et s'il manque une seule de ces conditions, il y a péché véniel. Donc si la matière n'est pas grave, ou si l'advertance n'est pas parfaite, ou le consentement non plein, alors le péché n'est que véniel, et il n'est pas un obstacle à la vie éternelle. Donc nous commençons par le péché mortel, celui de Saül. Ne garde rien des biens des Amalécites. C'est un commandement grave, ça. Il garde. Pleine adversance, plein consentement, matière grave, péché mortel. Terrible réalité que le péché mortel. Si nous savions ce que Dieu en pense, regardons ce qu'il a fait sur Satan. Satan, Lucifer, le plus beau des anges, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Un péché, un seul péché mortel. Une éternité de souffrance. Saint Thérèse d'Avila a vu une enfant de 7 ans en enfer pour un seul péché mortel. Voilà ce que Dieu pense du péché mortel. Regardez le péché originel qui est un péché mortel. Un seul péché. Regardez les conséquences du péché originel. On fait méditer sur ça pendant la retraite de Saint Ignace. Toutes les maladies de l'humanité sont dues au péché originel. Tous les cancers de l'humanité sont dus au péché originel. Tous les péchés des hommes, pratiquement, qui ont été commis dans l'histoire de l'humanité, qui seront commis, quelque part, sont dus au péché originel parce qu'ils sont dus en partie à l'inclination, ce manque d'intégrité dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Eh bien, si nous avions été à la place d'Adam, nous aurions peut-être fait comme lui. Et l'âme qui fait un péché mortel fait un peu la faute d'Adam. Et elle est quelque part responsable de la même gravité que celle d'Adam. Substantiellement, c'est la même gravité que le péché d'Adam. Et ça peut avoir les mêmes conséquences, j'allais dire. Bien sûr, nous ne sommes pas les ancêtres de l'humanité, mais un péché mortel peut avoir de très lourdes conséquences. Très lourdes conséquences. C'est pas difficile de le comprendre. Il y a des péchés mortels qui engendrent des maladies graves. Je pense que vous voyez ce à quoi je pense. Il y a des péchés mortels qui entraînent la damnation. Saint Augustin dit « Il y a une mesure de péché et une mesure de grâce au bout desquelles Dieu se retire. Bon, » Ça n'est pas de foi. Ça n'est pas de foi. Ça revient à dire Le bon Dieu de toute éternité a prévu que nous mourions à un certain moment de notre vie. Et si nous faisons certains péchés mortels dans certaines tentations, eh bien, il est bien possible que la grâce de la conversion ne nous soit pas donnée jusqu'à l'heure de notre mort. Et donc, nous ne savons pas combien de péchés mortels, pour ainsi dire, combien de péchés mortels la Providence nous a, comment dire, tolère en nous accordant la grâce de la conversion. Plus on pêche mortellement, plus on diminue la possibilité de se convertir. Parce que celui qui commet le péché est esclave du péché. Un seul péché mortel, donc, peut entraîner la damnation. Alors, de quelle gravité le péché mortel ? De quelle gravité le péché mortel ? Il y a peut-être des âmes, de nombreuses âmes, qui sont mortes en état de péché mortel pour un seul péché mortel. Et qui sont damnées éternellement. Eh bien, l'âme qui a commis un péché mortel ou plusieurs péchés mortels dans sa vie peut se dire que le bon Dieu a été miséricordieux envers moi. J'aurais pu faire partie de ces âmes, envoyées en enfer pour un seul péché mortel. Et je suis toujours là. Quelle miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il attendait pour m'envoyer auprès de Satan ? C'est terrible, le péché mortel. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Toute âme qui s'élève, élève le monde. Toute âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Et nous ne nous sauvons pas tout seuls, et nous ne nous damnons pas tout seuls. » Il est possible que le péché mortel d'une âme cause la damnation d'autres, en vertu de la communion des saints, parce que lorsqu'une âme fait un péché mortel, elle perd la grâce, et donc elle perd la capacité de faire le bien. Et donc elle perd la capacité, par sa sanctification, de mériter des grâces pour des autres, et peut-être des grâces qui leur ont été nécessaires pour se sauver. Dans la seule éternité, nous comprendrons la gravité de nos péchés, et l'âme qui a commis le péché mortel, dans la seule éternité, comprendra les conséquences de ces péchés mortels. Elle les pèsera. Elle les payera. Regardons ce que le péché a fait au Fils de Dieu. Ses clous dans les mains. C'est le péché. Ses épines. À Rome, on voit dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem les épines qui ont été mises dans la tête de notre Seigneur. Des épines longues comme ça. Et d'après le docteur Barbet, une de ces épines est allée se loger à l'arrière de l'œil. Ça se voit un petit peu d'ailleurs sur le sphère. Nos péchés étaient contenus dans ces épines. Le corps de notre Seigneur qui n'est plus qu'une plaie après la flagellation. On pourrait se dire, chaque coup de fouet, c'est moi. C'est moi. Quand les soldats frappent sur la couronne d'épines, c'est moi qui frappe. Quand il plante ses clous dans les mains de notre Seigneur, c'est moi qui frappe par mes péchés. Voilà la gravité du péché mortel, le sang d'un Dieu. Il a été frappé, meurtri à cause de mes péchés. Le Saint Curé d'Ars en parle. Si on disait à ceux qui travaillent le dimanche, si on disait à une jeune personne qui vient de danser 2 ou 3 heures, si on disait à un homme qui sort ivre du cabaret, « Que venez-vous de faire ? Vous venez de crucifier notre Seigneur. Vous venez de crucifier notre Seigneur. il serait tout étonné. C'est qu'il n'y pense pas. Si nous y pensions, nous serions saisis d'horreur. Il nous serait impossible de faire le mal. Car que nous a fait Dieu pour le chagriner ainsi, pour le faire mourir de nouveau, lui qui nous a rachetés de l'enfer. Quand Satan nous suggère le péché quel qu'il soit, il faudrait parfois se mettre le crucifix devant. Ça aiderait. Le péché mortel est haïssable. Il mériterait toute notre détestation. Le malheur, c'est que quand l'âme se convertit au début, elle a une véritable haine du péché mortel, mais petit à petit, ça diminue. Je parle de l'âme qui est déjà tombée dans le péché mortel. Il y a des âmes qui, par la grâce de Dieu, ont été préservées du péché mortel jusqu'ici, et donc qui n'ont commis que des péchés véniels. Mais il peut y avoir conversion pour ces âmes-là aussi. On pense que ça a été le cas de Sainte Thérèse d'Avila. Bon. Mais lorsqu'il y a eu péché mortel, la conversion de l'âme, donc au début, donne une haine profonde du péché. Mais petit à petit, il se peut qu'elle diminue. C'est ce qu'on rencontre un petit peu, ici et là, une sorte de diminution. On pense beaucoup à la vertu et on en haït un peu moins le péché parfois. Alors il est bon de nous retremper, et la retraite est la bonne occasion, de nous retremper dans cette haine pratique du péché. Et non seulement dans cette haine pratique du péché en tant qu'il est une... En voyant tout ce qu'il mérite comme souffrance de notre Seigneur, tout ce qu'il peut mériter aux âmes damnées, mais aussi tout ce qu'il a mérité à l'humanité dans la personne d'Adam, mais aussi en tant qu'il est péché, cette malice qui est la désobéissance à Dieu. Une désobéissance, une révolte. Nous avons tellement l'habitude de considérer que l'obéissance est la vertu des enfants que nous considérerons parfois la désobéissance comme un enfantillage. Mais c'est très adulte, la désobéissance. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Nous sommes tellement imprégnés d'esprit révolutionnaire et peut-être libéral que finalement nous regardons la révolte comme un choix politique. La révolte, la révolution, pour nous, c'est quelque chose de politique, c'est une autre connotation politique. Mais Monseigneur de Ségur et Monseigneur de Lassus ont très bien montré dans leurs livres, qui sont peut-être là, je ne sais pas, que la révolution n'est pas d'abord politique, la révolte c'est quelque chose de profondément religieux. Et le péché, c'est quelque chose de profondément religieux. Aujourd'hui, la révolte, la révolution, nous sommes contre, bien sûr, mais nous voyons moins son caractère profondément satanique, pécamineux, et réciproquement le caractère révolutionnaire du péché. Mais jadis, où on vivait beaucoup plus l'esprit de soumission, la soumission était traditionnelle, habituelle, eh bien la révolte, l'insoumission, c'était regardé comme des fléaux très destructeurs. Il faut lire les textes de Pie VI et Pie VII au lendemain de la Révolution française, la façon avec laquelle ils considèrent l'insoumission, l'esprit de désobéissance. C'est vraiment le péché. Pour nous, la désobéissance, bon, c'est pas bien. Non, c'est ce qu'il y a de pire. Celui qui pêche, excusez-moi, joue au petit Lénine. Le pécheur est un petit Lénine. Ah, nous sommes là, oui, Staline, Lénine, c'est... Mais le pécheur, c'est ça. Le pécheur, c'est ça. Et pourquoi ? Pour un vil plaisir, pour un sot orgueil, pour un intérêt passager. Préférer le fini à l'infini, la créature au créateur, notre plaisir au bon plaisir divin. Il y a quelque chose d'affreux dans le péché, si nous y songions. Cette désobéissance à Dieu en pleine lumière. Et les parents savent bien ce que c'est avec les enfants. On n'aime pas la désobéissance de l'enfant. Parce qu'on sent bien que c'est là la racine. L'enfant est allé chaparder des choses au frigidaire, l'enfant est allé se disputer ou mal ranger sa chambre. Mais ça, c'est, d'accord, c'est matériellement. Mais au fond, ce qui ne plaît pas au père ou à la mère, c'est le fait que l'enfant n'a pas fait ce qu'on lui avait dit. Voilà. Et le père et la mère sentent bien que si l'enfant est parfaitement docile, alors on obtiendra tout de lui. L'obéissance est la sainteté des enfants. Mais nous sommes pareils, nous sommes les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Et il en est de même pour nous. L'important est moins dans le matériel du péché, c'est ce qui nous a été dit ce midi d'ailleurs, que dans le formel, c'est-à-dire ce refus lucide en face de la volonté de Dieu. Je t'ai créé et tu ne fais pas ce que je te dis. Je me suis incarné pour toi et tu me refuses l'obéissance. J'ai pris sur moi les épines, les coups de fouet, les clous, le froid, la faim, les injures, les crachats. Et tu continues de me crucifier. Il y a quelque chose de révoltant. C'est dommage qu'on ne médite pas plus souvent sur ces choses-là. On ne pécherait plus. Derrière tout péché, il y a un manque de foi. Tout péché commence par un péché contre la foi, au moins un péché d'omission. Abominable réalité que le péché. Abominable. Et c'est ça que nous voyons chez Saül. Le Seigneur adressa la parole à Samuel et lui dit: « Je me repens d'avoir fait Saül roi, parce qu'il m'a abandonné et parce qu'il n'a point exécuté mes ordres. Je me repens d'avoir appelé telle âme à la grâce, parce qu'elle m'a abandonné et qu'elle n'a pas exécuté mes ordres. » Samuel, le type du prêtre, en fut attristé et il cria au Seigneur toute la nuit. C'est beau ça. Si nous avions cette soif des âmes de prier au Seigneur toute la nuit. Saint Dominique passait des nuits à prier. Des âmes d'élite comme ça, qui prient le Seigneur la nuit pour les pécheurs. Samuel qui s'adresse à Saül. Alors que vous étiez le plus petit, le bon Dieu ne vous a-t-il pas fait chef de toutes les tribus d'Israël ? Pourquoi n'avez-vous pas écouté la voix du Seigneur ? C'est à nous. Pourquoi n'ai-je pas écouté la voix du Seigneur ? Un reproche personnel. Tant que, si dans la retraite, et surtout dans ces premiers jours de retraite, nous n'avons pas ce reproche au fond de notre âme, la retraite est mal partie. Pas bien partie. Alors il faut calme, mais avec vrai désir, soupirer après ce reproche du Seigneur. Pourquoi n'ai-je pas écouté la voix du Seigneur ? Pourquoi vous êtes-vous jeté sur le butin et avez-vous fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ? Alors Saül va prendre la tangente. Mais non, au contraire, j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai fait la guerre aux Amalécites, je les ai tués. Mais c'est le peuple qui a pris le butin. Mais Samuel ne se trompe pas. L'obéissance est meilleure que les victimes. Il fallait écouter sa voix. Ne pas se rendre à la volonté de Dieu, c'est comme un crime d'idolâtrie. Puis donc que vous avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur vous a rejeté, afin que vous ne soyez plus roi. Vous avez rejeté la parole du Seigneur. Alors disons-nous cela à nous-mêmes. J'ai rejeté la parole du Seigneur. Mes péchés. Attention, pas les péchés spéculatifs, hein, les péchés pratiques. Donc là, c'est important, dans le cours de la retraite, tout au début, que vous preniez un petit peu les péchés individuellement, concrètement. Ça peut être des péchés mortels ou des péchés véniels. Je voulais en parler beaucoup, des péchés véniels. La troisième méditation, on n'aura pas le temps. Les péchés véniels. Péché mortel, selon, je les prends individuellement. Et je vais m'appliquer à les regretter, ceux-là, ceux que je connais moi, mes péchés, ceux que j'accuse le plus en confession, ces choses que me reprochent tant mes proches. Eh bien, à chaque fois que je fais ce péché-là, à chaque fois que je m'adonne en nouveau à la gourmandise, grave ou pas grave, à chaque fois que je reste insoumise, à chaque fois que je pêche par orgueil, à chaque fois que je m'adonne à nouveau à cette habitude de médisance, à chaque fois que je consens à cet esprit mondain, à chaque fois, je rejette la parole du Seigneur. Puis donc que vous avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur vous a rejeté. Le Seigneur vous a rejeté. L'éloignement de Dieu, l'un des pires des effets du péché mortel, enlever la présence de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, dit notre Seigneur à la Samaritaine, violer le temple du Saint-Esprit qui est l'âme, perdre la présence de Dieu, ou même seulement la diminuer, quelle tristesse. Refroidir l'amitié avec Dieu par le péché véniel, quelle tristesse. Parce que dans le péché véniel, il n'y a pas, évidemment, cette gravité du péché mortel, mais il y a toujours ce refus à Dieu. Il y a toujours cette infidélité, cette tristesse mise dans l'amitié. Le péché véniel, dit sainte Thérèse, c'est comme si l'on disait « Seigneur, bien que cette action vous déplaise, je ne laisserai pas de la faire. Je n'ignore pas que vous la voyez, je sais parfaitement que vous ne la voulez pas. Mais j'aime mieux suivre ma fantaisie et mon attrait que votre volonté. » C'est très grave. Tu aimeras le bon Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Péché véniel. Refus. Le lit de notre âme est trop étroit pour y mettre Dieu et la créature. Il faut que l'un ou l'autre tombe. Si nous savions la grandeur du péché véniel, nous le haïrions d'une haine terrible, efficace. Alors mettons tout notre soin en ce début de retraite à détester le péché, à nous rendre compte que nous sommes, en tant que fils d'Adam, un foyer, par le manque de don d'intégrité, un foyer de péché. Puis nous sommes révoltés en nous, la révolte est en nous. Il y a une lutte qui va se faire en nous, nous en parlerons lors du combat spirituel, une lutte en nous. Mettons toute notre détestation contre le péché mortel. C'est le mal, avec un grand M. La Sainte Vierge Marie, à Lourdes, s'adressant à Bernadette, « Pénitence, pénitence !» C'est tout. Que ce soit le cri de notre âme en ce début de retraite, « Pénitence, pénitence !» Un cri vrai, profond, tranquille. Tranquille, mais vrai, efficace. Il y a deux remords. Il y a le remords qui vient du diable et le regret qui vient du Saint-Esprit. Le regret qui vient du Saint-Esprit est tranquille, efficace, humble. Le remords qui vient du diable trouble, inquiète, travaille. Pénitence, pénitence, pardon Seigneur. Et toujours se tourner vers le cœur miséricordieux du bon Dieu, vers la Sainte Vierge Marie, refuge des pécheurs, refugium peccatorum. Il faut se tourner vers elle. Elle nous accueille dans son cœur, avec nos misères. La faute de Judas, c'est d'avoir désespéré. Ne désespérons jamais. Celui Celle qui commet le péché mortel ne doit jamais désespérer. Aussi grande serait sa faute. Certaines âmes viennent, monsieur l'abbé, c'est faute que je commets, c'est trop grand. Non. Attention. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? La miséricorde de Dieu est toujours plus grande que ce que vous pouvez faire. Quand bien même vous auriez fait 10 fois ce qu'a fait Sainte Marie-Madeleine. Et alors? C'est plus difficile au bon Dieu de convertir Sainte Marie-Madeleine que de vous convertir? Ah, mais c'est péché, je n'arrive jamais à m'en débarrasser, ils reviennent toujours. Ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est cette tristesse de l'âme. Mais ce qu'il ne faut pas garder, c'est ce découragement. Jamais se décourager. Non. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Dieu le peut. La vie spirituelle est un combat. La vie chrétienne est un combat. Tel est le sujet de ce soir. Sujet très important pour rentrer dans l'esprit de ce que le bon Dieu veut de nous. La vie chrétienne est un combat. Monseigneur Lefebvre aimait à insister sur cela. Première méditation, la vie chrétienne est un combat. Ce combat a commencé dès la création. Lorsque le bon Dieu était tout seul, il n'y avait pas de combat. Quand il eut créé les anges, quand certains anges eurent commencé de se révolter, le combat commença. Et le combat, depuis ce temps-là, dure. C'est le grand combat entre la cité de Satan et la cité de Dieu. Combat dont l'issue est connue. Victoire de Dieu, finale. Mais en attendant cette victoire, beaucoup de batailles qui permettent à Satan de prendre sur Dieu des revanches partielles. Il sait qu'il est battu d'avance, mais en attendant cette défaite finale, il cherche, pour compenser cette défaite, à damner les âmes des hommes. Ce qui lui donnera un nouvel objet de haine en enfer, et ce qui lui permettra de ravir à Dieu les âmes créées pour lui. Par conséquent, depuis notre conception, Satan s'occupe de nous, de chacun d'entre nous, avec une attention efficace et une méchanceté exceptionnelle. L'enjeu de ce grand combat entre Dieu et Satan, c'est donc mon âme, immortelle, ce que j'ai de plus cher au monde. Qu'est-ce que je possède de plus cher au monde que mon âme? Si je perds tout et que je sauve mon âme, j'ai tout sauvé. Si je gagne tout au monde et que je perds mon âme, ma vie n'aura été qu'un cauchemar. Que donnera l'homme pour le prix de son âme? Nous pose notre Seigneur. Question que nous pose notre Seigneur. Il n'y a pas d'affaire plus importante au monde que le salut de mon âme. Or, le salut de mon âme est l'enjeu d'un combat entre Satan et Dieu. Par conséquent, il n'y a rien de plus important au monde que cette immense lutte dont mon âme est l'objet. Tout dans ma vie doit être conditionné par ce combat spirituel. Finalement, tout dans ma vie se résout à ce combat. On peut dire, sous un certain rapport, que le chrétien, surtout le chrétien confirmé, bien sûr, est d'abord un combattant. Et même la chrétienne est une combattante. Finalement, le combat spirituel, ça n'est rien d'autre que la quête de la vie éternelle, le chemin du ciel, mais le chemin du ciel vu sous l'angle du combat, qui, à vrai dire, est presque l'angle principal. La première chose à faire, donc, dans ce combat, c'est de désirer la victoire, c'est-à-dire le salut. La vie chrétienne est un combat entre des forces maléfiques et des forces bénéfiques. Au nombre des forces maléfiques, on compte d'abord les démons. Saint Paul nous en prévient dans l'Épître aux Éphésiens. Ce ne sont pas la chair et le sang contre lesquels nous avons à lutter, mais ce sont les mauvais esprits qui sont répandus dans les airs. Esprits très mauvais, très cruels, mais esprits très intelligents. Le plus sot des anges mauvais est plus intelligent que le plus intelligent des hommes. Donc, estimer à leur valeur ces ennemis de notre salut, mais ne pas surestimer leur pouvoir. Comme pur esprit, ils n'ont pouvoir que sur notre esprit, que sur notre corps, et non sur notre esprit. Bien qu'étant des purs esprits, les démons ne voient pas notre âme. Ils n'ont pas de pouvoir sur nos âmes, mais seulement sur notre corps, sur nos sens, sur nos passions, sur notre imagination et sur notre mémoire. À vrai dire, ils ne savent pas ce que nous pensons, mais ils peuvent le deviner plus ou moins confusément grâce à notre imagination. Après les démons, le monde, autre force maléfique. Le monde, ce mot de monde, le monde pour lequel notre Seigneur ne prie pas, le monde que Saint Jean nous demande de ne pas aimer, ce monde désigne les maximes opposées à Jésus-Christ, les principes du monde. Heureux les riches, principes du monde. Ce mot de monde désigne les maximes opposées à Jésus-Christ et aussi toutes les personnes et les institutions qui se rangent derrière ces maximes. Exemple, les francs-maçons. Le monde est l'un des pires ennemis de notre âme, car il est séduisant. Et car il est partout. Nous reviendrons sur le monde. Après les démons et le monde, troisième force maléfique, d'une certaine façon, c'est la blessure de notre nature qui suit le péché originel. Rappelez-vous, ce manque d'intégrité, cette révolte en nous des facultés inférieures vis-à-vis des facultés supérieures, le désordre des passions, la malice de la volonté. Voilà les forces maléfiques. Mais il y a aussi les forces bénéfiques. Dieu. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Dieu est le plus fort. Et pour le coup, la raison du plus fort sera la meilleure. Saint Michel enchaînera Satan en enfer. Dieu est avec nous dès maintenant. faut jamais se décourager dans le combat spirituel. Celui qui se décourage manque de foi. Dieu est avec moi. Le bon Dieu me demande des choses difficiles, c'est vrai, mais il est avec moi. Il me donne la force. Les saints, force bénéfique, les saints du ciel, d'où la dévotion envers les saints. Le prêtre, l'Église, une force bénéfique qui est avec moi pour m'aider. Il faut demander au prêtre l'aide dans ce combat spirituel. Ne jamais se guider tout seul. Et enfin, mon âme, qui est aussi une force bénéfique, car elle est à la fois l'enjeu de ce combat et l'acteur. Je peux agir grâce à ma volonté. Après avoir parlé de ce combat qu'est la vie chrétienne, en avoir dressé un petit tableau, venons-en, en guise de deuxième méditation, à l'état d'esprit du combattant. Le combattant doit avoir une mentalité, comme on dit aujourd'hui, un état d'esprit qui doit éviter deux écueils et s'ancrer dans un véritable état d'esprit de combattant. Le premier écueil qui menace le combattant, c'est l'oubli du combat. Je ne m'étais pas aperçu que j'étais en guerre. C'est la spiritualité, bien souvent, conciliaire, moderniste, libérale. On oublie qu'il y a combat parce qu'on a perdu de vue Satan, l'enfer, le salut de l'âme, parce qu'on a ramené la vie chrétienne à un bonheur purement terrestre et le travail du prêtre à celui d'une assistante sociale, eh bien, on a perdu de vue ce combat et on dépose les armes, comme l'a dit Paul VI lors de son discours de clôture de Vatican II. Le monde et l'Église se sont trouvés face à face et l'ancienne inimitié, l'ancienne antipathie entre le monde et l'Église n'a pas eu lieu. Un grand courant de sympathie est né entre l'Église et le monde. L'Église a embrassé le monde. Il faudrait redire la parole de saint Paul, je crois. Quoi de commun entre le Christ et les Béliales? C'est un mariage impossible entre l'Église et le monde. Alors dans la spiritualité conciliaire qui se ramène à la charité mal entendue, sans combat, sans croix, je grossis les choses, hein. Ensuite ça dépend un peu des gens évidemment, mais cette spiritualité amène à une vie volontiers doucereuse, pas de friction. Il faut être bien avec tout le monde. Grand souci de s'adapter aux circonstances, de sourire à tout le monde. Ne pas heurter les gens de front, ne pas heurter le monde de front. Oubli du combat qui peut se profiler dans notre âme sous la forme du sentimentalisme, qui, il faut le reconnaître, hein, sans discrimination, menace plus facilement la femme que l'homme. C'est comme ça, le bon Dieu a fait les choses ainsi. Le sentimentalisme qui consiste à donner la priorité aux impressions des sens et de la sensibilité sur la raison. Je me guide d'abord d'après mes impressions et non pas d'abord ma raison. J'obéis d'abord à ma sensibilité au lieu de me commander par la volonté. Je cherche à tout prix dans la vie spirituelle les émotions. Un livre qui a été écrit récemment par un philosophe sur l'importance de l'émotion dans le monde moderne. On cherche à tout prix à gouverner les émotions et nous risquons fort d'être victimes de cela. Les émotions, par exemple l'éclipse, émotion. On vous donne des lunettes. Alors on monte un petit peu la pression par les journaux, par les médias. Ah, l'éclipse, ça va être un moment terrible, un moment magnifique. Et alors la plupart des gens avec lesquels vous parlez, vous leur dites alors l'éclipse, c'était vraiment un moment magnifique. Bon, il n'y avait rien à voir. Voilà. Comme le disait un commentaire, c'est la vibration collective à l'unisson du rien. C'est exactement ça. Les JMJ, c'est typique. Ça ne veut pas dire les jeunes modernistes en jean, ça veut dire les journées mondiales de la jeunesse. Et donc, et là-bas, les émotions, alors des grandes lumières, de la musique, un peu New Age, les émotions. Dans notre vie spirituelle, ce sentimentalisme se marque par la recherche des consolations. L'amour des consolations, être bien, se sentir bien, et le découragement dans la désolation. Quand on se sent bien dans la vie spirituelle, tout va bien, il n'y a pas de trouble, je n'ai pas de... J'ai envie de prier, je me sens une certaine joie. Ah, ça veut dire que je progresse. Voilà, ça, c'est ce sentimentalisme. Ou alors, au contraire, je suis découragé, je n'ai rien envie de faire, la prière me pèse, je n'y vais qu'à regret, je ne mène mon oraison qu'à coup de volonté, il n'y a jamais de goût, alors ça veut dire que je régresse. C'est une profonde erreur, parce que cela revient à mettre l'essence de la vie spirituelle dans la sensibilité, ce qui est un non-sens, à vrai dire, parce que la vie spirituelle ne peut pas être dans la sensibilité, puisqu'elle est spirituelle. La vie spirituelle est spirituelle. Et rappelons-nous que le combat est entre Dieu et Lucifer, qui sont des esprits. Sentimentalisme, se fier à l'impression du moment, aux états d'âme, pour juger de sa vie spirituelle. Se laisser aller à la joie sans réserve, à la tristesse sans réserve. L'oubli du combat. Je suis comme un navire qui se laisse aller au gré des courants, au lieu de ramer et de mettre le gouvernail. Sentimentalisme. Deuxième écueil dans l'état d'esprit du combattant, c'est la fatigue du combattant, qu'on appelle tiédeur, qui menace non pas les âmes qui se convertissent, mais les âmes qui se sont converties depuis longtemps, qui ont longtemps servi le bon Dieu et auxquels le bon Dieu a donné des bonbons spirituels, c'est-à-dire les consolations au début, puis ensuite il retire ces consolations et alors on se dégoûte un petit peu et on finit par tomber dans la tiédeur. En n'ayant plus de bonbons, on n'avance plus. Relâchement spirituel. Voilà, la tiédeur, c'est le relâchement spirituel. La volonté languissante, l'horreur de l'effort. Il est important d'ailleurs de se confier à un prêtre parce que on n'est jamais lucide sur sa propre tiédeur. C'est rare. Les âmes qui se jugent d'elles-mêmes tièdes, en général, sont tout sauf tièdes. Cause de la tiédeur. Les causes de la tiédeur, c'est la négligence dans les exercices spirituels. On raccourcit l'oraison, on va de moins en moins à la messe, on ne fait plus son examen de conscience, ou on le fait mal. Négligence dans le devoir d'État, négligence dans le combat contre les défauts, dans l'esprit de sacrifice, une vie spirituelle de routine, sans véritable réaction, sans combat. Les causes de la tiédeur amènent la tiédeur. Comment reconnaît-on la tiédeur? À quels signes se reconnaît-elle? Aux tentations mollement repoussées, avec peu d'énergie, un certain goût. Elle se reconnaît au péché véniel volontaire. Ah oui, j'accepte le péché véniel, je n'ai pas mortel, donc je me le permets, tiédeur. Signe de tiédeur. La résurgence de l'orgueil, la dissipation habituelle, très souvent signe de tiédeur. Vous voyez, quand on commence toute la journée, on a tout un tas d'idées qui passent par la tête et rien de spirituel, on se laisse complètement absorber par les choses matérielles sans véritable réaction, sans souci d'être à Dieu. Là, quand la tiédeur est là, il faut faire attention, car elle est dangereuse. Elle mène très souvent au péché grave. Car l'habitude d'offenser le bon Dieu dans les péchés véniels mène tout droit au péché mortel en pleine lumière. Elle mène à un affaiblissement de la volonté. La volonté n'est plus prête aux sacrifices, aux efforts. Tout pèse. Elle mène, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dangereux, à l'aveuglement de la conscience, au relâchement de la conscience. Aveuglement sur son état propre. Je ne suis pas tiède. Qui êtes-vous pour me faire des réflexions? On ne juge plus le péché comme péché. Bon, ça, c'est pas si mal, finalement. C'est un état très dangereux, non seulement parce qu'il mène au péché mortel, mais parce qu'il mène au péché mortel habituel dans lequel on reste. Il y a deux sortes de péchés graves. On peut tomber dans le péché grave de façon subite. On n'était pas tiède, on essayait d'aimer le bon Dieu, puis d'un coup une occasion grave s'est manifestée. Par suite de faiblesse de volonté, on est tombé. On se redresse aussitôt et on repart de plus belle, avec un élan de ferveur retrouvé. Ça, c'est le signe qu'il n'y avait pas la tiédeur. C'est une faute mortelle, mais accidentelle, voyez, subite. Il n'y a pas à s'inquiéter trop du salut de cette âme. Par contre, l'âme qui s'engonce dans la tiédeur par des fautes véniales délibérées se prépare un jour à la faute grave. Mais cette faute grave, finalement, elle ne la trouve pas si grave que ça parce qu'elle a relâcher sa conscience et ensuite essayer à nouveau de retrouver la ferveur est très très difficile, sinon impossible pour l'homme, pas pour Dieu bien sûr. Éviter donc ces deux écueils, tel est notre rôle, et retrouver le véritable état d'esprit de combattant. Quel est ce véritable état d'esprit de combattant? Il consiste en un esprit de lutte et en une lutte de l'esprit. Tout d'abord, en un esprit de lutte. La lutte, se considérer comme un combattant. Et si on ne s'est jamais considéré comme ça, se le dire en face, dans l'oraison. Je suis un combattant de Dieu, soldat de la cité de Dieu. Qui dit lutte, dit effort. Pas de combattant sans une ferme volonté, un amour de la difficulté. Donc cultiver la volonté, aimer à former sa volonté dans l'effort difficile. Ne se sentir bien que quand on est un peu gêné ou quand on a quelque chose qui nous manque. C'est ce que disait saint Paul, je crois. Je ne me sens jamais aussi bien que quand je ne suis pas tout à fait bien. Ou ce que disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la mortification universelle. Ne jamais être parfaitement bien, toujours se supprimer quelque chose. Force et courage, tel est l'esprit de lutte, un esprit de force. Donc pas de véritable combat sans l'esprit de force, donc pas de véritable vie spirituelle sans la force contre soi-même. Ce sont des choses qu'il faut vivre ensuite, hein, voyez, auxquelles il faut réfléchir dans le courant de cette retraite, en disant, tiens, est-ce que je suis une âme véritablement forte contre moi-même, voyez, c'est poser la question, est-ce que j'ai ce souci de me vaincre? Est-ce que je ne fais pas trop consister ma vie spirituelle dans une certaine... un certain équilibre, un certain bonheur spirituel assez tranquille, sans heurts, sans... Ah. Est-ce que je sens de temps en temps la dureté de l'effort? Avec mesure, bien sûr, hein, mesure. C'est-à-dire que l'héroïsme des grands saints n'est pas demandé à tout le monde. Les grands saints pratiquaient l'héroïsme, comme Saint Thérèse d'Enfant Jésus, cet héroïsme de la charité à chaque instant de la vie, d'essayer de faire chaque chose avec le plus grand amour possible pour Dieu, c'est de l'héroïsme, mais ça n'est pas demandé à tout le monde tout de suite. Mais ce qui nous est demandé, c'est l'effort, un effort qui doit être mesuré, pesé, ni trop ni pas assez. En général, on a plutôt tendance à ne pas faire assez. Pas faire assez. Alors, c'est à chacun de se rappeler cette parole de notre Seigneur, le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc, au ciel, il n'y a que des violents. Suis-je une âme violente? Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de la violence contre les autres, ni de la violence sotte, inconsidérée, mais de la violence réfléchie, calculée, chrétienne, surnaturelle, mais de la violence quand même. Ça doit coûter. On ne va pas au ciel en carrosse, comme on dit parfois. Il faut être des âmes viriles, se vaincre, se maîtriser. Quelqu'un qui avait été successivement soldat et moine disait « Mes pires combats, je ne les ai pas vécus sous l'armure, mais sous la bure. » Le moine est un bien meilleur combattant que le militaire. Esprit de lutte. Lutte de l'esprit également. C'est-à-dire renoncer à cette erreur qui nous menace de faire consister notre vie spirituelle dans le sentiment et le sens. Renoncer au sentimentalisme. Renoncer aux impressions. J'ai l'impression d'être fervente, ou j'ai l'impression d'être tiède, peu m'importe ces impressions. Il se peut très bien que je sois parfaitement fervente, alors que j'ai l'impression que tout me coûte. Ne pas se fier aux états d'âme, par exemple dans la retraite, de dire, tiens, j'ai du mal à prier, ça me coûte d'aller prier, donc ça veut dire que j'ai mal fait commencer ma retraite. Non. Non, parce que si vous avez de la difficulté à prier et qu'effectivement vous faites l'effort de prier, eh bien c'est que la retraite est bien commencée. Ne pas se fier aux impressions, tout miser sur la volonté aidée de la grâce. Donc, basculer la vie spirituelle de la sensibilité à la volonté aidée de la grâce. La volonté qui ne doit pas être tendue dans un effort crispé, volontaire, orgueilleux, mais qui doit être calme, tranquille, efficace, ferme et toujours portée par la grâce toute-puissante du Saint-Esprit, qui est celui qui me sanctifie. Renoncer au sentimentalisme, donc obéir à la raison. Ne jamais obéir aux impressions. Mais je réfléchis avant d'agir. Ne pas rechercher les consolations, ni fuir les désolations. Modérer ses joies et ses tristesses. Troisième méditation. Après avoir vu quel devait être l'état d'esprit du combattant, voyons maintenant la pratique de la lutte, la pratique du combat. Première lutte, la lutte contre les plus grandes forces maléfiques, les démons. Les démons agissent principalement par le trouble, le mensonge et la tentation. Laissons de côté le mensonge. Attention au trouble, parce que la lutte ne doit pas se faire dans le trouble, même si la lutte engendre un certain nombre d'efforts, donc de peines. Elle peut se faire dans une parfaite paix, paradoxalement. La lutte doit se faire, c'est une lutte qu'il y a lieu entre ma volonté aidée de la grâce et les ennemis de mon âme. Mais c'est une lutte qui est accompagnée d'une paix qui n'a pas lieu entre moi et les ennemis de mon âme, mais à l'intérieur de mon âme, entre mon âme et mes autres facultés, parce qu'au moment où je lutte, je mets dans l'ordre ma propre personne. Le démon agit par la tentation. Toutes les tentations ne sont pas dues au démon. Beaucoup sont dues à la faiblesse de notre nature. Quant à celles qui sont dues au démon, il faut les chasser. Dans le calme, dans la paix, le père Lombé, dans son très beau livre sur la paix intérieure, c'est un livre qui ne se trouve plus, c'est dommage, un très beau livre sur la vie intérieure, sur la paix intérieure, écrit par un moine, avec des chapitres, un gros chapitre sur le scrupule, un gros chapitre sur la modération, sur les tentations et sur le détachement universel, très intéressant. Eh bien, il insiste beaucoup pour dire « Il ne faut pas se troubler vis-à-vis du démon, car le démon se sert de notre trouble. Le démon aime la confusion, le trouble. Donc, prier, jeûner, utiliser l'eau bénite contre le démon, l'humilité. On résiste à la tentation également par les sacrements et beaucoup par la foi. C'est un mode de résistance sur lequel je m'attarde un petit peu. La foi qui consiste à voir dans le péché mon malheur, parce que le démon est un menteur, comme à Ève. Regarde ce péché, tu vas y trouver du bonheur. C'est alors qu'il faut résister avec la foi et se dire, raisonner, voyez, plus les impressions. Le démon nous gouverne au niveau des impressions, de la sensibilité. On résiste au niveau de la foi, parce que là, il est perdu, le démon. Si on reste au niveau de la sensibilité, on reste à son niveau. Je monte au niveau de la foi. Tu me présentes quelque chose qui apporte un petit bonheur, c'est vrai. J'ai bien envie, par exemple, de dire du mal de ma voisine. Parce que la dernière fois, elle m'a fait une entourloupe, alors eh bien, je voudrais bien lui retourner ça. Voilà. Alors ça, c'est petit. Ou alors, tentation de mauvaise satisfaction, etc. Donc, une petite satisfaction de l'amour propre, de la sensibilité, etc. Petite ou grande, peu importe. Mais à cela est joint l'offense à Dieu. Or, l'offense à Dieu, c'est non seulement l'offense à celui qui a été le meilleur pour moi, mais encore un trouble mis dans mon être, et s'il s'agit d'un péché grave, le risque de la damnation. Donc, le pire des maux. Donc, tu m'offres un petit bonheur attaché au pire des malheurs. Voilà. Je me place sur le plan de la foi. Donc, tu vois, Satan. Enfin, il ne faut pas s'adresser à lui comme ça, mais il faut lui dire... Oh. Tu me proposes cela, mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et c'est un menteur. À ce moment-là, on dit, Seigneur Jésus, donnez-moi de ne pas faire mon propre malheur. Donnez-moi de ne pas faire mon propre malheur. Est-ce que je vais faire mon propre malheur ? Lutte contre le monde qui séduit par ses maximes, par l'étalage de ses vanités et de ses plaisirs, qui se dissimule sous l'aspect des amusements, des mauvais exemples. Le monde qui essaie de nous terroriser pour nous empêcher de dire nos convictions par les moqueries des gens, les anathèmes des médias. Le monde qui essaie de nous engoncer dans la lâcheté par la faiblesse de la minorité, Pour lutter contre le monde, il faut d'abord se placer devant l'éternité et regarder le monde à la lumière de l'Évangile. Le monde me dit, il faut profiter de ta jeunesse. C'est faux. Car voici une autre maxime. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qui a raison ? Se placer dans la foi. Il faut choisir. Saint Jacques nous dit, qui veut être l'ami du monde, se fait l'ennemi de Dieu. Attention donc aux habitudes mondaines, dont on vous parlera peut-être, je ne sais pas, les journaux, dans les bonnes familles, on voit des journaux qui traînent sur les tables, auxquels les enfants ont souvent accès. Alors parfois on les cache pour les enfants, on les garde pour les parents, comme si ce qui est mauvais pour les enfants pouvait être bon pour les parents. Les catalogues, les revues, esprit mondain, esprit de jouissance, esprit de futilité, de vanité, qui engonce nos âmes dans une curiosité et dans une, excusez-moi, dans une bêtise. On vous apprend à vous extasier sur, le fait que telle dernière voiture développe un système de freinage absolument extraordinaire. On fait 4 pages là-dessus, alors on se passionne. On finit par trouver ça passionnant alors que c'est ridicule. C'est bon, c'est intéressant, c'est bien, mais ça ne mérite pas qu'on y attache, que tant de monde y attache tant d'importance et tant de temps. Les journaux avec leur publicité qui attirent notre âme dans cet esprit de consommation, de confort, de luxe. Il y en a beaucoup hein, dans les familles. Beaucoup de journaux. Attention, c'est un danger pour nous. Il faut savoir élaguer à la sortie de la retraite. Avec prudence, bien sûr, en demandant conseil. Mais faites attention. Hein. On voit très bien chez les enfants le résultat de ces revues. La télévision, bien sûr. Il n'y a pas d'exception. Il faut la sortir de la maison, c'est clair. On ne voit pas comme ça de raisons suffisantes qui pourraient justifier une télévision dans une famille catholique. Peut-être qu'il y en a, mais j'en vois pas. C'est une catastrophe pour la pureté, c'est une catastrophe pour la vie spirituelle, c'est une catastrophe pour l'esprit de prière, c'est une catastrophe pour la vie de famille. Alors évidemment, parfois on ne peut pas faire autrement. Le mari, la femme, il n'y a pas moyen de faire autrement. Le cinéma. Est-ce qu'on peut encore aller au cinéma quand le cinéma passe des films comme La Dernière Tentation ou comme Dogma ou... Est-ce qu'on peut encore donner notre argent à ces salles? Ou laisser les enfants y aller? Ah, mais le film auquel je vais, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de scène, etc. C'est pas tout, les scènes impures, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a souvent un esprit de mondanité. La vidéo, il faut faire très attention aussi, parce que les enfants souvent voient des films qu'il n'est pas permis de voir. Le choix souvent est un peu trop large. Hein. Le choix que l'on fait sur les en se disant je vais faire attention, on en discute avant, en famille, tout ça. Et parfois, assez souvent, le choix est trop large. Et les enfants vont chez des amis et puis regardent des films sans que les parents sachent du tout quel film ils vont voir. La dernière fois, ça m'est arrivé. J'en parlais avec des parents. Voilà. Et au cours de la conversation, les enfants qui se mettent à dire en face des parents « Ah oui, la dernière fois, on est allé voir tel film, etc. » J'étais là, moi. C'est bien, il y avait une atmosphère de franchise très sympathique. Alors je leur dis « Mais oui, vous savez que dans tel film, il y a ceci, ceci, cela. » Je ne suis pas allé le voir, hein, mais bon. Parents découverts. « Ah oui, mais mon autre enfant va là-bas et il ne sait jamais ce qu'il va voir à l'avance. » Les musiques, le rock, la radio. Faites attention, les enfants souvent écoutent. On offre des radios aux enfants, ensuite ils écoutent n'importe quoi. Attention à certaines... Je pense qu'il faut interdire aux enfants d'écouter toutes les radios de musique nouvelle de jeunes. Donc je vous donne quelques noms à toutes fins utiles, parce que parfois vous ne les connaissez peut-être pas. Des radios comme Energy, Fun Radio, Skyrock, etc. Ce sont vous entendrez peut-être ces noms dans la bouche de vos enfants, pour les femmes mères de famille. Donc faites attention. Donc d'abord les musiques, ce sont des musiques très très dangereuses. Bon, ça mériterait beaucoup d'approfondissement. Mais également, vous avez des spots publicitaires, comment dire, des messages publicitaires, tout un tas de discussions, de choses qui sont dites, qui sont abominables. Abominables. Je peux vous le dire, parce que moi-même, j'écoute régulièrement ces choses-là. Parce que, bon, je m'intéresse un peu à ces questions des musiques modernes. Donc, j'écoutais récemment, comme ça, une radio, mais c'est innommable. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants écouter des choses pareilles, sans surveillance, et même avec surveillance, ce n'est pas bon pour vous non plus. Les romans, ça aurait été bien que je compte le nombre de fois où les enfants viennent. J'étais dans une école jusqu'ici, non, je suis muté, mais j'étais dans une école. Monsieur l'abbé, j'ai trouvé ça dans la bibliothèque de mes parents, et mes parents m'ont dit oui. J'ai dit, ah bon, ils ont dit oui. Est-ce que vous pouvez voir? Alors quand je regarde toujours page après page. Toutes les pages. Ça prend du temps. Alors en général, l'enfant, au bout de 5 fois, il commence à se dire, qu'est-ce qu'il fait l'abbé avec mon livre? Et dans 3 cas sur 4, lorsque le livre vient de la bibliothèque des parents, il faut le jeter à la poubelle. Ce sont des faits. Les soirées. Donc pas de soirée, évidemment, quand il y a des danses modernes, c'est clair. Ça va de soi. Les rallyes. Les amitiés du monde, attention, hein, surtout aux enfants aussi, même les jeunes gens, les jeunes filles, tout ça, faire attention à certaines amitiés. Il faut savoir faire du bien, avoir un souci d'apostolat, mais aussi un souci de se préserver de l'esprit du monde, donc il y a un équilibre à trouver. Attention, en passant au grand magasin, ça a l'air de rien. La dernière fois, une mère de famille me disait, Monsieur l'abbé, je ne vais plus du tout dans les grands magasins. Non seulement je n'y amène plus mes enfants, mais je n'y vais plus moi-même. Parce qu'elle s'était aperçue que ça nuisait à sa vie spirituelle. Alors elle se débrouillait, elle allait dans des magasins de moindre importance, parce que ce sont des magasins qui poussent au consumérisme, à la superficialité, au brillant, à la curiosité, et sans compter tout un tas de choses. Bon, on pourrait beaucoup dire de choses. Les jeux électroniques, bien sûr, les vêtements, les modes, attention aux modes, hein, tout ça c'est la mondanité. Alors il faut faire choix. Profitez de cette retraite pour faire un examen de conscience. Hein. Il ne faut pas tout jeter d'un coup. Hein. Tout dépend au point auquel vous en êtes. Si, par exemple, si tout ça vous l'avez et vous en consommez 4 heures par jour, bon, ben, il ne faut pas tout jeter d'un coup. Il faut commencer par supprimer ça et puis prudemment. Hein. Mais pour ceux qui sont déjà assez loin de l'esprit du monde, ben, celles qui sont déjà, faut savoir aller encore retrancher. Avec prudence, bon. Bien sûr, il ne s'agit pas de supprimer toutes les distractions du tout, il ne s'agit pas de se retirer du monde, et bien sûr, il y a un équilibre à trouver. La lutte contre soi-même. Alors d'abord, la concupiscence de la chair, c'est-à-dire l'amour désordonné des plaisirs des sens. Là aussi, il y a un combat à mener. Comme contre le monde, il faut mener un combat, il faut mener un combat contre notre nature déchue, enfin, oui, blessée. Alors la nourriture, la boisson, les plaisirs des sens, touchant au sixième et au neuvième commandement, les regards. Alors là-dedans, eh bien sûr, bon, il faut se battre, c'est un combat. Qui n'a expérimenté ce combat? C'est dans la Sainte Écriture, au livre de la Sagesse, je crois qu'il est dit, celui qui n'a pas été tenté, que sait-il? Personne ne peut se dire, ah moi je suis vraiment très attaqué là-dedans, plus que tout le monde. On entend souvent des gens qui disent cela. Non, tout le monde a à se battre. Un combat qui est méritoire. Tout le combat spirituel est méritoire. Il ne faut pas considérer ce combat comme une condamnation. C'est au contraire une source de mérite. ceux de mérite. Et ce combat contre l'impureté en particulier, bien sûr il y a tout un tas de choses qui pourraient être dites, hein, ça mérite une conférence à part, mais en particulier l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Et c'est là sans doute la marque du combattant, c'est l'esprit de croix. L'esprit de croix. C'est-à-dire que si l'on ne se renonce pas et si l'on ne se mortifie pas suffisamment dans la vie courante, alors la concupiscence de la chair finit par avoir le dernier mot. Et donc, il faut savoir se renoncer. Saint Paul aux Galates, ceux qui appartiennent au Christ crucifient leur chair. Crucifient leur chair. Il va loin. Bien sûr, il faut le prendre dans un sens spirituel. Mais le mot est là. Crucifient leur chair avec ses vices et ses convoitises. Donc, l'esprit de renoncement, celui qui ne se renonce pas n'a pas l'esprit du combattant. Il faut se renoncer. C'est vraiment la marque du combat spirituel. L'esprit de sacrifice. Aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. Un prêtre auquel on demandait pourquoi il n'y a pas assez de vocation, on disait il manque l'esprit de sacrifice. Eh bien, c'est aux familles, à nous tous, de vivre de l'esprit de sacrifice. Encore une fois, ça doit être un sacrifice prudent, équilibré, mais un sacrifice réel. Surtout dans notre monde, qui ne parle que de jouissance, de satisfaction, de contentement, qui met tout son bonheur dans les biens de la terre, il faut avoir cet esprit de sacrifice, concret, pas spéculatif, pas imaginé, pratique. La concupiscence des yeux, c'est-à-dire l'amour désordonné des richesses, faire attention, ça peut se manifester par un trop grand amour du confort, toujours rechercher des voitures d'un certain niveau, des meubles assez confortables, des chambres dans des hôtels qui sont suffisants, etc. La curiosité aussi. Faire attention à la curiosité. Et enfin, l'orgueil de la vie, l'ambition. Là aussi, il y a un esprit de lutte contre l'orgueil. C'est ça, chacun de voir. C'est une lutte que l'humilité. C'est une lutte qui doit être continuelle. C'est vraiment le fondement. Si nous arrivons à être humbles, nous arriverons à être des saints. Tant que nous sommes orgueilleux, nous ne serons jamais des saints. Jamais. Lutte contre le défaut dominant, bien sûr. Aussi un combat spirituel, on peut dire. Alors ça, c'est important d'en parler avec le prêtre avec lequel vous parlez, avec son directeur spirituel habituel, etc., de parler de son défaut dominant, de connaître son défaut dominant, d'arriver à le cerner, et de lutter contre lui. C'est une partie importante du combat spirituel, qui concrétise le combat spirituel pour qu'il ne reste dans des nuages. Donc, ayons cet esprit de combattant, pour conclure, et donc cet esprit de croix. Notre Seigneur ne lutte jamais autant que lorsqu'il est crucifié. Au moment où il semble le plus passif, jouer des hommes et des événements, cloué à la croix, à ce moment-là, c'est le moment suprême de sa lutte avec Satan. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Je veux la donner. Notre Seigneur veut souffrir. Notre Seigneur veut mourir. Parce que notre Seigneur veut combattre contre Satan, qui à ce moment-là précis perd le combat. Le combat s'est gagné au calvaire. Notre combat pour notre âme se gagnera au calvaire, dans la croix, à la messe, dans le sacrifice. Et à la seule condition de faire ce combat, de mener ce combat énergiquement, nous aurons la paix. La paix sur la terre, la paix de l'âme, la paix intérieure, dont parle le père Lambé, n'est promise qu'à ceux qui combattent. Ceux qui cherchent la paix ne la trouvent pas. Ceux qui cherchent le combat spirituel trouvent la paix.